A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Que Montesquieu a regardé l'humanité dans les yeux avec cette citation « L'esclavage dans la conquête est une chose d'accident ». Évidemment, le siècle des Lumières s'éclairait à la bougie, mais quand même, Luc Saint-Éloi, assis dans le fauteuil d'un sol majeur, a lui sa petite boîte d'allumettes dans la poche. Réalisateur, dramaturge, comédien, acteur militant de la cause noire, tout son temps d'homme et d'artiste, il le passe à éclairer notre lanterne sur la question de l'esclavage, de sa mémoire et sur l'invisibilité des artistes noirs sur nos écrans français. Son franc-parler, il le doit peut-être à la Guadeloupe, sa terre d'origine, et son sens de l'histoire peut-être à l'art, sa terre d'adoption. De 1802 à Héritage perdu, film de Christian Lara, jusqu'aux Échos de la mémoire, feuilleton radiophonique sur l'esclavage, il faut désormais compter avec le sieur Saint-Éloi. Bonjour Luc.
Bonjour Yasmine, bonjour aux auditeurs.
Quelle voix vous nous faites ?
Non, j'ai une voix normale.
Alors je disais en ouverture que vous aviez une petite boîte d'allumettes dans la poche. C'est une image, mais pas que. C'est une vraie question en fait. Est-ce que vous diriez que vous êtes un peu un pyromane de la mémoire ?
Oh là là, pyromane, c'est un mot dangereux, mais bon, qui véhicule aussi sans doute la lumière ou la passion. En tout cas, oui, je pense que je suis peut-être habité par cette petite volonté d'éclairer nos lanternes, entre guillemets, ou peut-être tout simplement rompre les silences, revisiter les pages méconnues. Et donc du coup, me rebâtir également et puis faire en sorte que les uns et les autres m'accompagnent dans un souci de reconquête, entre guillemets, vers le chemin d'une dignité à retrouver, concernant l'homme noir en tout cas.
Petite boîte d'allumettes pour grosse amnésie sur cette question.
On peut dire ça comme ça, pour grosse amnésie. Et en plus, c'est une maladie universelle très très dangereuse.
En tout cas, pour En sol majeur, nous on va réviser notre petite histoire de Luc Saint-Éloi.
Comme petit poussé.
Avec entre deux ou trois crapauds buffles de Guadeloupe, attention. Cette question, est-ce que vous êtes né au pays du petit poussé, Luc Saint-Éloi ?
Je ne sais pas si je peux répondre au pays du petit poussé. Je suis né là où je pense que j'aurais dû être né, sur la terre ancestrale.
Pourquoi
et j'ai grandi là où on nous a déportés.
Pourquoi vous êtes né à Djibouti en 1955 ?
Tout simplement parce que je suis fils de militaire de carrière et que mon père, engagé dans l'armée française, a fait ses années d'expérience comme sans doute beaucoup de sa génération. Et le hasard m'a fait naître là-bas parce que c'était la fin de sa carrière, parce qu'en fait on est 7 enfants. Donc il y en a qui sont nés en Guadeloupe, il y en a qui sont nés là-bas. Je suis le dernier à être né à Djibouti. Donc je suis parti peut-être un an et demi après. Donc j'ai aucun souvenir de Djibouti en question, hein, puisque j'ai grandi après en Guadeloupe.
Mais c'est joli de marquer sur l'extrait de naissance, né à Djibouti.
Ah, c'est joli, mais ça va poser des petits soucis, parce qu'à l'époque c'était le territoire français, donc c'était côte française des Somalis. Après, Djibouti a été indépendant. Quelques temps après, j'ai dû perdre mes papiers, donc il a fallu prouver que j'étais français. On m'a demandé des tas de papiers, ça finit au tribunal, donc c'était pas facile. Une fois que Djibouti fut indépendant, ce fut compliqué pour moi, mais bon.
Vous allez grandir au Gosier, donc un quartier.
Alors j'ai grandi ma petite enfance
Pointe-à-Pitre.
À Pointe-à-Pitre, ensuite Bainbridge, et puis après plus grand, au Gosier.
Dans un environnement tropical, mais pas que.
Garde à vous !
Déjà dire que vous avez été sans doute élevé religieusement et manu militari.
Oui, c'est très curieux d'entendre ces sons un peu mélangés. Oui, je suis issu d'une famille très très pieuse. Donc tous les matins, c'est la prière. Et ma mère, tous les premiers vendredis du mois, il faut aller à l'église. Effectivement, je me suis toujours posé la question. Adolescent, on habitait dans une caserne de gendarmes. Et puis, je n'ai jamais compris pourquoi on était les seuls civils dans cette caserne de gendarmes. Donc tout autour, il y a des équipements. Tout autour, le matin, il y a des entraînements. Tout autour, il y a aussi des endroits où ils vont stocker les chenillettes, les motos, j'ai tout ça dans ma mémoire. Mais c'est vrai que le jour de ma première communion solennelle, je décide de devenir curé, de devenir prêtre.
Ouais.
Et c'est ainsi qu'on me prend très au sérieux et que mes parents font le nécessaire et m'inscrivent au séminaire. Et je deviens petit séminariste, voilà.
Et cette vocation se brise de quelle manière ?
Cette vocation se brise parce que je découvre à l'intérieur une réalité qui est tout autre.
À l'intérieur,
À l'intérieur, au séminaire.
Oui,
parce que nous sommes encadrés quand même par des curés, par des frères. Je fais partie des petits séminaristes et j'assiste quand même à des choses pas très jolies et je vois qu'on me courtise de façon un peu bizarroïde. Je ne comprends pas très bien au début. Par exemple, ça commence par une petite anecdote où je vais chercher un goûter et le frère, un des responsables, un curé canadien, il me dit « Fais-moi voir ta langue tout en tenant mon goûter à la main ». Je sors ma langue et il me dit « Ah, qu'est-ce qu'elle est pointue, j'aimerais bien la goûter ». Et à ce moment-là, je comprends qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc le soir, je me souviens, devant ma glace, je regarde et je dis « Mais pourquoi ma langue est pointue ?» Je cherche à comprendre pourquoi ma langue est pointue, jusqu'à ce qu'un camarade me dit « Au fait, il t'a pas dit de venir ce soir prendre une image ?» Et là, je comprends qu'il y a des abus sexuels. Et là, je comprends qu'il y a des attouchements. Et là, je me tiens sur mes gardes, mais on se rend compte quand même qu'à cet âge-là, il est impossible de parler. Et jusqu'à présent, bah, j'ai l'âge que j'ai, je n'ai jamais pu en parler à mes parents. Donc le jour où je décide de ne plus y aller, donc après 2 ans et demi au séminaire, je décide que je ne veux plus, je pense que je ne suis pas fait pour cette vocation.
Alors vous découvrez donc ce terrible monde intérieur du petit séminaire et
oui.
Vous savez beaucoup de choses aussi, Luc Saint-Éloi.
Et l'affreux monde des adultes.
Oui. Et vous savez aussi beaucoup de choses sur les églises pendant cette période de Guadeloupe encore coloniale.
Oui, parce que quand on grandit à Bainbridge, on est quand même dans un quartier où il y a tout autour des paysans, entre guillemets. Nous, on a la chance d'habiter dans la cité. C'est la cité Haute-Berre qui appartient à Becquet. Mais à l'église où on va, les premières rangées sont réservées aux familles de Becquet. Donc, sur les bancs, il y a des prieurs. En fait, c'est dans des petites plaque métallique où il y a les noms des familles. Mais nous, on n'a pas le droit de s'y asseoir. On s'assied derrière ces bancs réservés aux familles. Moi, j'ai connu ça quand j'étais gamin,
mais on
était déjà dans les différences de classe.
Alors vous qui êtes un Saint-Éloi, est-ce que vous êtes issu vous-même d'un métissage ?
On peut penser à métissage, même si mes deux parents sont guadeloupéens. Donc ma mère est une demoiselle Sorel du Moule. Une famille un peu bourgeoise aussi. Mon père est une famille beaucoup plus modeste. Mais mes deux parents, père et mère, sont bien guadeloupéens, sont bien noirs de peau. Mais on peut aussi comprendre que nous sommes issus de ce fameux métissage qui est lié au choc de ce que vous savez par rapport aux déportations et à la traite négrière. Donc bien évidemment, on ne peut qu'être métissage, j'en suis conscient. Mais je me suis rendu compte dans les castings où on me disait « Attention, on cherche un comédien noir et vous n'êtes pas un comédien noir. » Donc on me disait « Vous êtes métisse et que vous avez un nez fin, que vous avez une petite bouche. » Donc finalement, on m'a fait comprendre à travers mon métier que je n'étais pas tout à fait noir parce que je ne répondais pas à des critères bien spécifiques et bien caricaturaux.
Rewind, Luc Saint-Éloi, sur vos 17-18 ans, vous tombez un jour sur un film étrange intitulé Coco la fleur candidat, c'est un film de Christian Larac dont vous allez croiser la route plusieurs fois ensuite. L'histoire de ce film se passe dans les Antilles avec comme personnage un certain David de Boyer, surnommé Coco la fleur, en fait parce qu'il a toujours accroché à la boutonnière une sorte d'hibiscus comme ça, même si son costume est assez rapiécé. Alors c'est un homme à tout faire, d'après ce que j'ai compris, très populaire, et qui se retrouve un jour candidat à une élection locale. Il est même très inspiré dans ses discours en créole. Voilà un petit extrait qui commence en disant « Ça suffit, les Noirs en ont marre de se sacrifier. »
« Ah pas vrai, ah pas vrai, ah pas vrai !»« Nèg ça, là, ce point fait, faut ça changer. Qui m'a foutu ça ? Tout homme, c'est homme. Tout homme, ni même besoin, ni même droit, ni même devoir. » Alors, pas de raison. Hein?
M.
Nous besoin d'argent. Nous besoin d'argent pour nous manger.
M. Comme miroir, miroir.
Et oui, qu'est-ce qui se passe, Luc Saint-Éloi, lorsque le jeune Guadeloupéen de 18 ans tombe sur ce film, Coco la fleur candidat, qui parle en créole?
C'est un choc parce que c'est la première fois que je nous vois à l'image, sur grand écran. C'est aussi le premier film commercial antillais. C'est la naissance du cinéma antillais. Quand je vois Coco Lafleur, je suis complètement fasciné parce que je ne connais pas du tout les acteurs. Je ne sais même pas qu'on avait des acteurs. Je découvre une volonté quand même de la part du réalisateur, même si c'est quand même une sorte de comédie féroce, mais qui démontre une certaine manipulation. Comment un individu un peu naïf qu'on manipule au service d'un système. Et finalement, ça aurait pu fonctionner. Et puis il se rend compte au fil de ses contacts avec son public durant les meetings, mais le naturel revient au galop. Et puis il parle vrai. Et puis au fond, il faut l'assassiner parce qu'en fait, il n'est plus manipulable. Le film sort quelque temps à Paris au cinéma Luxor vers Barbès. Mais j'amène mon père voir ce film. Il est complètement fasciné. Je n'ai jamais vu mon père aussi détendu. Et la salle est comble. Il y a plein d'Antillais ce soir-là. Et je suis complètement comblé parce que ça répondait, sans le savoir, inconsciemment à une attente.
C'est un choc pour vous parce que je me demande comment vous vous percevez vous-même dans ce département français d'outre-mer, adolescent et jeune adulte. Et la question, c'est à quel moment vous découvrez véritablement votre antillanité? À quel moment il y a cette prise de conscience d'identité?
J'avoue que la prise de conscience arrive beaucoup plus tard. En fait, là, c'est un petit voyage à la limite qui m'inonde. Mais je suis même là encore pas suffisamment conscient que, il y a un cinéma. C'est vraiment des cadeaux. Pour moi, c'est des cadeaux. Et je ne suis pas encore en train de me dire, c'est naturel. C'est presque un accident qu'on nous offre. Et du coup, le temps passe. Mais je ne pense pas non plus faire ce métier. À ce moment-là, je ne suis pas du tout dans le milieu artistique. Et c'est beaucoup plus tard quand je découvre qu'il existe à Paris un ensemble culturel Théâtre Noir. Je découvre des cours d'art dramatique par Benjamin Jules Rosette. Nous sommes dans les années 79-80. Et c'est là que je comprends que je ne connaissais pratiquement rien de mon antillanité.
Et là, c'est le théâtre qui vous révèle ça.
C'est le théâtre qui me révèle ça parce que quand je vais pour la première fois à ce cours d'art dramatique, je me souviens très bien que je découvre Darling Legitimus, cette dame qui a déjà un certain âge. Moi, j'arrive pour la première fois, je vois des jeunes apprentis comédiens et Benjamin, parce que c'était ma première visite, Benjamin me dit, il faut que tu trouves un texte à travailler. Donc, il trouve un texte d'un auteur guyanais, africain. Et je dis, je ne savais pas du tout qu'il y avait des Noirs qui écrivaient. Et là, je découvre des pièces écrites par Maryse Condé, je découvre Aimé Césaire, et là, je commence à me poser des vraies questions.
Mmh. Et vous rejoignez donc ce répertoire.
Je rejoins tout naturellement
Antillais.
Benjamin et Jules Rosette, qui m'invite à remplacer un des comédiens qui tombe malade. Et je joue dans une des adaptations qu'il fait de Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. Et c'est ainsi que je fais mes premiers pas sur scène.
Donc, théâtre et écriture également, puisque vous êtes l'auteur de nombreuses pièces. Très simplement le prix de la terre, combat de femmes, trottoir chagrin, chemin d'école. L'enjeu de l'écriture à ce moment-là, c'est quoi pour vous qui découvrez justement qu'il n'y a pas un vrai répertoire antillais?
Alors, c'est très curieux parce que je passe à l'écriture. Est-ce que c'est accidentel ou pas? J'ai l'impression que dans les pièces que je découvre à l'Armatan ou aux éditions Présence africaine, j'ai l'impression que je ne trouve pas une réalité contemporaine. J'ai l'impression que les pièces que je découvre sont des pièces qui parlent d'hier. Et j'ai eu envie d'écrire la peinture d'une cellule familiale de personnes de la Terre. Et c'est pour ça que j'ai créé le prix de la Terre en créant cette famille. Et c'est peut-être parce que j'ai des personnages en tête, je veux les confier à Darling et à Georges Hilarion, que j'écris cette pièce.
Ce que vous ignorez, c'est qu'il n'y a pas que ma chair qui est une terre promise. Il n'y a pas que mon sexe que vous labourez. C'est mon corps tout entier que vous empoisonnez. C'est mon âme, le monde que vous minez. C'est votre grand-mère, votre mère, votre petite sœur, votre fille qui vous regarde et qui explose à chaque coup de rein dans mes entrailles. Qui parle comme ça dans Trottoir Chagrin?
C'est le personnage féminin de Trottoir Chagrin. Quelques années après, je suis conscient qu'il y a très peu de rôles féminins dans notre répertoire. Même chez Césaire, il n'y en a pratiquement pas. Et peut-être que c'est une part de ma féminité, mais j'ai créé une compagnie théâtrale quelques temps après mon arrivée au Théâtre Noir. En 1983, je crée ma compagnie théâtrale, le Théâtre de l'air, avec Marilyn Ampigny. Elle avait adapté l'histoire de Carmen qu'elle a transposée aux Antilles, qui s'appelle Carmen la Matador. Et j'ai l'impression que mes premiers pas en tant que responsable, et forcément c'est la première fois que j'ai un rôle principal puisqu'elle me confie le rôle de José, seule Carmen chante l'œuvre de Bizet, donc finalement c'est un opéra-théâtre, mais c'est la première fois sans doute que les comédiens noirs disent « je t'aime » sur scène. Mais le simple fait d'avoir fait naître cette compagnie théâtrale avec Marilyn Ampigny, j'ai l'impression que je lui dois ça. Et après avoir pris conscience qu'il n'y avait pas suffisamment de rôles féminins, j'ai eu envie de créer des personnages féminins. D'où Trottoir Chagrin.
Donc une prostituée.
Une prostituée. En fait, au départ, je cherchais un personnage féminin qui soit libre dans son corps, dans sa tête. Je ne connais rien à la prostitution. Mais à cette époque, il y a quand même, dans les faits divers, un Antillais-Guyanais qui est un assassin recherché par la police. C'est l'histoire de Paulin, qui est l'un des plus grands tueurs, j'entends, de ce siècle. Ah bon, qui appartient aux Antillais. Donc, je suis un peu pas fasciné, mais j'arrive pas à y croire vraiment, mais c'est la réalité. Alors, du coup, je dis, bon, mais je vais créer un personnage féminin qui déambule sur le trottoir, comme ça, elle en veut au monde entier. Elle est libre dans son corps, dans sa tête, et j'imagine qu'elle se rend à un endroit précis dans la nuit. Elle revient sous les lieux d'un crime. Non, auparavant, elle a eu son frère assassiné pour des raisons racistes, et je crée une sorte d'hommage à toutes les victimes des violences gratuites. Et ma pièce Trottoir Chagrin est sans doute aussi liée à l'amitié que j'ai eue dès ma première pièce Le Prix de la Terre, grâce aux encouragements d'un grand dramaturge français qui s'appelle
Bernard Marie Coltès, rien moins,
et qui lui m'encourage. Et vraiment, je pense que Trottoir Chagrin est habité par les empreintes de l'œuvre de Coltès.
Écriture, théâtre, cinéma à l'écran, vous avez tourné dans plusieurs films, et j'ai remarqué, je ne crois pas m'être trompée, que vous aviez joué deux fois un grand personnage historique, Louis Delgrès, sous la houlette de Christian Lara. Je rappelle Louis Delgrès, libre de couleur, hein, comme on disait, mort en 1802 en Guadeloupe. Un personnage historique qui fait bien sûr la fierté aujourd'hui des Guadeloupéens. Jouer deux fois ce personnage, ça ne peut pas être un hasard.
Mais parce que je pense que Christian Lara a vu en moi sans doute quelque chose qui pourrait ressembler à un chef de file. Moi, je n'ai pas fait le service militaire, donc je ne connais rien aux armes. Je commence à découvrir l'histoire de Delgrès grâce aux travaux de Christian Lara, en fait, parce que Christian Lara, c'est le petit-fils du premier historien guadeloupéen, qui s'appelle Oruno Lara. Donc forcément, Christian va puiser dans tous les travaux de ce grand-père historien. Et il me parle beaucoup de Delgrès, de son investissement. Delgrès est martiniquais au départ. Hein, donc,
ça vous répare de jouer ce genre de rôle ?
C'est pas que ça me répare, mais ça m'aide à comprendre le combat mené par ces hommes au nom des libertés. Finalement, je pense que ce sont des luttes universelles et qui nous aident à retrouver notre place pour un retour vers la verticalité. Et je pense que rentrer dans les habits de Delgrès une première fois, bon, ça veut dire que je suis en apprentissage. Mais la deuxième fois, cette fois-ci avec 1802, c'est le rôle principal.
Alors, cette page d'histoire est en corrélation avec une autre question, celle de la discrimination à l'endroit des comédiens noirs en France. Et c'est devenu un peu un de vos chevaux de bataille, Luc Saint-Éloi. Pour vous, notamment en 1999, vous devenez membre du collectif Égalité, aux côtés d'une certaine Calix Belaya. Et c'est dans ce cadre que vous faites tous les deux une apparition très remarquée à la 25e nuit des Césars. On est en 2000.
Dans tous les lieux de la culture, nous tenons à vous dire que la situation que nous subissons depuis trop longtemps bafoue toute notion de dignité humaine. Imaginez seulement. Imaginez dans ce pays une télévision qui vous transmettrait exclusivement des images de noirs. Imaginez dans ce pays, dans tous les cinémas, des écrans qui projetteraient exclusivement des histoires entre noirs pour des noirs à l'exclusion de toute autre couleur. Imaginez dans ce pays des écrans publicitaires à la télévision, au cinéma, sur les murs de toutes les grandes villes qui vanteraient des produits de consommation par des noirs. Et cela depuis la naissance de la radio, de la télévision et du cinéma. Et vous, chers compatriotes, imaginez que vous soyez absent, invisible. Imaginez seulement, mais rassurez-vous, ce rôle d'absent, c'est nous qui l'interprétons. Mais ce n'est pas une fiction. Seulement, notre dure réalité dans un monde de blancs qui exclut toute une partie de la population dont le seul tort est d'être noir ou jaune. Nul ne sort indemne d'un tel scénario.
Il y a assez peu de rebours.
Et nous ne souhaiterions à personne ces exclusions, ces humiliations et ces souffrances.
Oui, avec en fond la voix d'Alain Chabat, qui est le maître de cérémonie sur RFI pour un sol majeur. C'est un moment incroyable, hein, cette 25e nuit des Césars. Vous êtes un peu dans votre meilleur rôle, je trouve, Luc Saint-Éloi, celui de perturbateur. Alors, il faut imaginer le public. On a Catherine Trottmann, qui est la ministre de la culture de l'époque. On a des Alain Delon, Hervé Bourges, Sigourney Weaver, Catherine Deneuve. Ils font tous une moue. Hein. C'est très étrange de voir leur réaction, leur visage. Tout le gratin du monde politique et cinéma qui vous écoute. Ma question, c'est quelles conséquences a eu ce happening et cette prise de parole pour vous, professionnellement?
Déjà, vous l'avez souligné, c'est sans doute le plus grand rôle de mon parcours artistique. Je considère que c'était un rôle ce jour-là, parce qu'il fallait du courage, il fallait de l'audace, je l'ai eu. Sans doute, encore une fois, cet esprit suicidaire que j'ai côtoyé avec le personnage de Dalgrès.
Parce que là,
c'est pas des termes que j'aime employer, mais vous l'avez choisi, je respecte. Oui, il faut mettre le feu aux poudres, parce qu'à un moment donné, c'est fatigant, c'est lassant, c'est usant. Là, je viens de réaliser en 1998 une grande fresque historique où j'explique nos pages d'histoire depuis les travaux de Tchekanta Diop, l'Égypte. J'explique une page d'histoire méconnue que tous les Français, comme moi-même, on n'a pas appris sur les bancs de l'école. C'est la fameuse traite négrière pendant très longtemps. Et à un moment donné, sur la voie publique, j'ai fait le choix de créer à travers cette fresque historique la possibilité, par le biais artistique et culturel, d'expliquer notre histoire et notre appartenance à la France. Ça veut dire que, historiquement, il faut qu'un Français moyen, raciste peut-être, comprenne pourquoi moi, noir de peau, je suis un Français. C'est l'histoire qui l'explique. Après nos travaux, on n'a pas pu convaincre, on a eu du mal. En tout cas, on voulait être reçu par Madame Trottmann, ministre de la Culture à l'époque, qui ne nous a pas reçus. Mais j'avais créé un centre culturel afro-caraïbes en 1998. C'est très important parce que, comme le Théâtre Noir avait fermé, nous sommes dans un désert total. Le Théâtre Noir ferme, le seul centre culturel que nous avions ferme dans le plus grand silence. J'ai la possibilité, moi, grâce à mes astuces et mes travaux, j'ouvre un centre culturel afro-caraïbes où j'ai un souci de constant échange avec tout le monde. On vient apprendre une part de nous-mêmes. Je m'adresse à tous les Français, quelle que soit la couleur de peau, mais pour moi c'est un complément par rapport au dispositif qui existe en France.
Verdict, après cette prise de parole, vous avez été pénalisé?
Oui, bien sûr, jusqu'à présent.
C'est-à-dire, de quelle manière?
Parce que depuis, chercher Luc Saint-Éloi dans les productions françaises, ça n'existe pas. Je vais même vous dire que Madame Catherine Trottmann, dans la même semaine, elle disparaît. Je pense que le gouvernement Jospin a compris. Quand on nomme la nouvelle ministre de la Culture, heureusement, sa première mesure, c'est la modification du cahier des charges des chaînes de télévision. Donc ça, c'est déjà le premier changement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu bousculer l'ordre des choses pour enfin faire naître un vrai débat national sur la diversité. Mais évidemment, il y a eu des petits changements.
C'est vous qui êtes à l'origine alors de ce débat ?
Absolument. Il n'y avait pas de débat avant, c'était le désert total. Et puis on nous disait, il faut laisser le temps au temps. Faut laisser le temps au temps, mais je suis désolé, moi je côtoie tous mes publics. Mes publics ont des origines différentes, les gens sont curieux et sont assoiffés de tout. Par contre, en créant ce débat national grâce à notre intervention en direct à la télévision, ça fait 18 ans, hein, Yasmine, et récemment encore, j'étais en Guadeloupe, j'ai entendu parler de complot, on est bénéficié de complicité, aucune complicité.
Un classique.
Jusqu'à ce jour, Yasmine, aucun micro de médias national ne m'a été tendu.
C'est-à-dire, puisque... Vous êtes en train de dire aussi que non seulement le cinéma blanc français ne vous a pas ouvert ses portes, mais que vous n'êtes pas forcément soutenu par la communauté antillaise elle-même ?
Non, il y a eu un soutien de quelques-uns, mais vous savez très bien que forcément, certains qui ont commencé à travailler ont dit « c'est surtout pas à cause du mouvement du collectif égalité ». Même les journalistes, attention, ce sont nos rencontres avec TF1, Le Lait Moujotte nous ont reçus parce que à l'époque où j'avais le centre culturel, ils avaient refusé de nous recevoir en disant nous n'avons rien à cirer des Noirs. Ils se sont excusés en nous recevant très très rapidement parce que nous avions lancé une campagne de boycott en disant eh bien puisque c'est comme ça, nous appelons toute la communauté noire à boycotter les Bouygues puisqu'il faut les nommer. Et à ce moment-là, ils ont eu peur de ce fameux boycott et ils nous ont reçus. C'est très bien parce que là, ils ont pris conscience que finalement nous disions vrai et ils se sont engagés à embaucher des journalistes et en passant par la météo. Et c'est comme ça que le monde médiatique s'est un peu coloré et il y a eu des petits signes.
Mais on est toujours dans ce que vous appelez une sorte de marronnage culturel.
Mais finalement, je suis rentré dans un véritable marronnage parce que finalement, on ne me tend pas de micro parce que je parle vrai. Mais je redis encore à ce micro que ma démarche reste citoyenne. Elle l'a été depuis toujours. Et mes premiers mots, rappelez-vous, c'est mes chers compatriotes. Donc pour répondre aussi à votre question, mon seul sentiment, c'est que j'ai quand même un tout petit peu souffert du fait que les miens jouaient à un jeu double. Donc à un moment donné, on ne veut pas se reconnaître dans le combat qu'on mène, mais en même temps, on bénéficie de ses avantages, parce que certains ont commencé à travailler. Alors qu'il est tellement simple de parler d'une seule voix, en disant « oui, nous parlons vrai, il faut que ça change », parce qu'il y va également de la culture en général, mais en même temps, de l'apport des différentes populations qui composent la nation française.
Alors j'ai bien envie d'ouvrir à ce moment-là les portes en sol majeur au groupe Akio que vous avez programmé, Luc Saint-Éloi, avec Neg. C'est un groupe, j'ai regardé, qui a révolutionné dans les années, fin des années 70 le côté un petit peu paillettes et bassines en plastique du carnaval guadeloupéen. Il a un peu rehaussé le...
Oui, moi je pense que c'est un groupe qui fait un travail culturel énorme. Ils ont un peu revalorisé aussi le tambour. Dans le carnaval, tout n'était pas très 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 structuré, et c'est un groupe qui s'est structuré très tôt avec des textes forts, puissants et qui viennent faire du bien à l'homme noir en général et aux Guadeloupéens que nous sommes.
Si vous voyez, on a l'autre quand tu es autre, faut pas autre mélanger Congo. Après bon Dieu, c'est Nep Congo.
Olivier du Cyrano.
Après bon Dieu, c'est Papa Vélo.
Olivier du Cyrano.
Antiope, moi Antiope, Antiope, moi Antiope, pas parler.
Olivier du Cyrano.
Antiope, moi Antiope, Antiope, moi Antiope, pas parler.
Olivier du Cyrano.
C'est pas moi Antiope, c'est pas moi Antiope, pas parler.
Olivier du Cyrano.
Antiope, 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 pas parler.
Olivier du Cyrano.
On vient prier Congo, il parlait banal Congo. Je vais te dire n'est Congo comme ça, de moi pas parler là.
Pas vous, mais là, j'entends la Guadeloupe, c'est la Guadeloupe. Hein.
Oui.
C'est un peu le message d'Akio sur.
Et ce son
en
particulier, c'est bien ce son guadeloupéen. Le son de ce tambour, ce tambour de déboulé, en fait. Ils appellent ça des déboulés. Quand il marche à 150 km/h dans les rues. Et c'est un
La terre tremble.
Oui, oui, c'est volcanique.
Alors, ces tambours de rue me rappellent, Luc Saint-Éloi, un autre son, celui du Goka.
Goka.
Goka. Redites-moi.
Goka.
Goka. Pourquoi je dis Goka?
Ouais, parce que c'est du vrai créole, ça, c'est la langue de la Guadeloupe. Hein,
vous savez, je le dis régulièrement, j'aimerais tant parler un de ces créoles, vous savez.
Oh ben, je vais vous donner quelques
clés. Ah oui, je veux bien, je suis preneuse. En tout cas, c'est pour parler, évoquer un petit peu un certain 21 juin 98, dont vous avez été le maître d'œuvre. J'aimerais bien que vous nous donniez, que vous partagiez avec nous certains tableaux de cette fresque historique gigantesque. Il y avait quelque chose comme 450 personnages historiques.
Absolument, 450 personnages. L'idée, c'était de célébrer le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, la deuxième abolition. Je rêvais, parce que j'étais devant ma télé quand j'ai vu Good avec la célébration du centenaire de la Révolution française. Je rêvais de faire la même chose.
Jean-Paul Good, vous vouliez
Jean-Paul
être.
Good, oui. Voilà. Donc c'est pas que je voulais être, mais je voulais faire ce qu'il avait fait parce que c'était grandiose. Ma mise en scène, c'était en tête de cortège, il fallait le groupe Akio. L'idée, c'était de montrer à quel point l'Afrique était belle avant l'arrivée de l'Europe. Donc j'ai fait des grands tableaux thématiques en disant on va montrer l'Afrique à travers l'Égypte. Après, on a sélectionné des grandes civilisations africaines. Derrière, après que l'Europe soit arrivée, ben, ils ont mis les chaînes, ils ont inventé la barbarie. Et à ce moment-là, nous avons fait marcher nos peuples avec des bouts de chaîne à la main pour symboliser la barbarie. Et ensuite, il fallait montrer ceux qui se sont battus contre la barbarie pendant des siècles. Ce sont les marrons, tous les anonymes. Certains ont des noms, vous les avez nommés tout à l'heure, Delgrès, Ignace, on a Massotto, Palerme et tout cela. Et en fait, derrière, nous avons mis en scène tous les paysans, femmes, hommes, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes dans la résistance, Solitude, Marthe Rose. Et en fait, ce sont des grands tableaux thématiques qui montraient la richesse de nos populations noires depuis l'Égypte, les grandes civilisations africaines, en passant par les Antilles. Et après, j'ai invité tous ceux qui, épris de justice ou de liberté, voulaient honorer la mémoire de ces millions de victimes. Nous étions plus de 60 000 personnes. Mais l'objectif de cette grande fresque historique, c'est que je m'étais adressé à Serge Chaumier, qui à l'époque était mon décorateur. Je lui avais demandé de me constituer un monolithe pour qu'on puisse proposer sur la place des Antilles comment honorer ces hommes et comment donner une âme à la place des Antilles à nation. Et nous avions déposé cette version éphémère de ce grand monument constitué de chaînes et j'invitais tout le public à déposer au fur et à mesure les chaînes avec lesquelles on avait marché. Et nous avons eu la chance d'avoir Catherine Trottmann à l'époque, ministre de la Culture, qui s'était rejoint à nous parce que la fête de la musique de 98 avait pour thème le cinquantenaire des droits de l'homme et le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Seulement, c'est une année que je n'oublierai jamais, 1998, tant j'ai souffert, j'ai reçu des menaces, j'ai tout reçu, parce qu'au fond, encore une fois, les miens n'ont pas accepté l'idée de faire cette grande fresque à mes côtés. Certains disaient « Ah oui, mais ma mère ne va pas marcher avec une chaîne à la main ». Je peux vous le dire, là, ce sont des révélations. Par exemple, là, je découvre M. Romana, pour la première fois de ma vie.
C'est qui, Madame M. Romana, Romana?
C'est ceux qui ont après créé la marche du 23 mai. Et il me dit « Ce n'est pas question qu'on marche avec des chaînes, parce que c'est compliqué, le peuple ne va pas suivre ». Je dis « Mais de quoi parle-t-on ? » Là, nous avons, grâce à la volonté de la France de commémorer ce 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, nous allons créer un miracle extraordinaire et nous allons donner une âme à la place des Antilles. Parce que
donc
finalement,
la communauté ne parle pas d'une seule et même
pas,
voix.
Pas du tout, je le découvre à ce moment-là, je découvre et je me dis « Bon, mais ce sont les chaînes qui gênent ». Et finalement, donc, après, ils mettent en place cette fameuse marche silencieuse le 23 mai. Et là, je me tais, je dis rien, mais je suis combattu en permanence dans les coulisses. Le résultat, c'est que ne parlons pas d'une seule et même voix, malgré des démarches qui ont duré 2-3 ans. Mais l'année d'après, en 99, je fais la même chose et je dis, au lieu de marcher avec des chaînes, j'appelle tout le monde avec des fleurs. Et j'ai créé ce qu'on a appelé la marche des héros, des fleurs pour nos héros. Et je me suis rendu compte que finalement, certains ne voulaient pas du tout nous rejoindre et que c'est pas la chaîne qui gênait, c'était une volonté de travailler autour de la mémoire pour exister. Certains ont utilisé la mémoire pour finalement rentrer en politique et exister. Je le regrette.
Ils se reconnaîtront.
Ils se reconnaîtront. Et c'est la première fois que je dis ces mots.
Luc Saint-Éloi, donc comédien, réalisateur, guadeloupéen, qui traite de la traite de multiples manières. Vous allez nous raconter rapidement, malheureusement, ce concept radiophonique que vous avez mis en place en lien donc avec le 10 mai, date qui commémore l'abolition de l'esclavage. Les échos de la mémoire, extrait.
L'infériorité génétique du négro africain.
Je dirais sauvage.
Je voleur, violeur.
Barbare.
Barbare.
Et puis très laid.
Oh.
Laid, très laid.
Sauvage.
Paresseux.
Barbare.
Cet homme a un cerveau mâle, insuffisamment structuré. Il est sauvage, barbare, il est sale, il est laid. Il est paresseux, voleur, violeur, il est anthropophage. Il n'a que des émotions et des instincts bestiaux. Ses sociétés sont ahistoriques. Au mieux, c'est un sous-homme. Il est dès lors normal qu'il soit l'esclave des autres espèces de la race humaine. Voilà ce que nous dit Alphonse Kenoum dans Les Églises chrétiennes et la traite atlantique du 15e au 19e siècle. Mais les travaux de Tchekanta Diop et d'autres chercheurs nous ont, il y a déjà belle lurette, restitué l'essence négro-africaine de la brillante civilisation de l'Antique Égypte. Tenez, écoutons la parole du médecin togolais Charles Quist. Pour comprendre cette situation désastreuse que l'Afrique connaît aujourd'hui, il est nécessaire de remonter dans l'histoire.
Une page d'histoire sur RFI pour un sol majeur, et je m'en réjouis, Luc Saint-Éloi. C'est aussi un exercice pédagogique, un exercice de transmission, un exercice de comédien aussi.
Aussi, c'est mon métier.
Ces échos de la mémoire.
Oui, c'est mon métier, je suis comédien avant tout. Donc là, il s'agit quand même d'un don. En 98, j'ai la chance de rencontrer un historien, un professeur d'histoire à la retraite, qui vient me voir et qui me dit « Fils, j'ai entendu ton projet sur la fresque historique du 21 juin. » Il me remet son manuscrit. Et je lis ses travaux, je trouve ça extraordinaire. D'une simplicité, il raconte la traite négrière, l'esclavage, et il me dit, ce que je te demande, rends populaire cette page d'histoire, que nos enfants entendent cette page d'histoire. Et là, je prends ce manuscrit et je l'adapte, et je fais une version radiophonique en 26 épisodes des travaux de M. Godwin Tété, qui est un historien togolais. Et quelques années après, j'accompagne le nouveau président avec son slogan « Le changement, c'est maintenant ». Je dis « Tiens,
nous y voilà,
nous y voilà,
cher François.
Enfin le changement ». Et je propose une version originale au Jardin du Luxembourg dans le cadre de la Journée nationale des mémoires du 10 mai. Et c'est ainsi que j'adapte les Échos de la mémoire en une grande exposition sonore et visuelle qui va durer 3 semaines et que j'installe dans les Jardins du Luxembourg inaugurés par François Hollande, président de la République.
Mmh. Et c'est une série, je tiens à le préciser, qui est labellisée UNESCO.
Absolument. Et donc c'est une série qui a déjà été diffusé sur toutes les stations d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, partout. Mais j'avoue que je l'ai proposé aussi à RFI. Hein. Je suis un peu déçu. Voilà, je le dis comme je le pense.
C'est pour ça que je me réjouis que l'on entende ce malheureusement trop court extrait des Échos de la mémoire. À propos d'histoire, est-ce que vous, Luc Saint-Éloi, vous savez si vous-même vous êtes un petit-fils d'esclave ?
Je le suis forcément sans me poser les questions. C'est une tragédie qui a déshumanisé une partie de la race humaine. On a du mal à retrouver cette part d'humanité. On a du mal à se réconcilier.
Mais c'est important pour vous, pas, de savoir si oui ou non vous êtes dans cette filiation. Vous dites, c'est évident, c'est sûr.
J'appartiens à cette partie de l'humanité qu'on a déportée pendant très longtemps. Quel que soit le nom que j'ai porté ou quel que soit le nom que mes aïeux ont porté, oui, je viens de là. Les conséquences aujourd'hui, c'est que de toute façon, je suis noir de peau. Avec ce que ça suppose, c'est que cette période de l'histoire a créé un véritable problème racial. C'est qu'à un moment donné, l'homme noir était tellement caricaturé, folklorisé, que jusqu'à présent, ce regard posé sur nous n'a pas bougé. Et finalement, que je sois fils d'eux ou pas fils d'eux, je sais d'où je viens, mais mon combat, c'est pour que demain, plus jamais ce type de barbarie n'existe, quel que soit à l'endroit du globe.
Welche Worte können Sie nur in Ihrer Muttersprache sagen?
Quels sont les mots que vous ne pouvez dire que dans votre langue maternelle?
Ce sont des sons qui me replongent il y a très très longtemps, hein, autour de nos cités, là où on en a parlé en début. Je voyais les bœufs souffrir sous le coup des fouets. J'entendais le matin « Watché ! Watché ! » En fait, c'est les agriculteurs qui, après avoir cultivé la canne, chargeaient les cannes sur les charrettes à bœufs et les charrettes à bœufs conduisaient la canne à l'usine. On allait leur dire bonjour, mais on voyait ces hommes sous le soleil avec le fouet, les bœufs souffrant avec leurs charges, leurs tonnes de sur le dos. Mais ça marque l'enfance. Moi, ça m'a marqué. C'est des sons « Watché !» quand j'entends ça. Je ne supporte pas ça.
Alors, cette langue maternelle,
C'est le fameux créole qui était dans notre cellule familiale, interdite. Le créole était réservé aux pauvres gens et aux gens du peuple, entre guillemets. Hein. C'était interdit à l'école.
Il vous en reste quoi, alors ?
Eh bien, il me reste que je maîtrise maintenant le créole, et on ne parle pas les créoles tout bonnement, et que je parle créole normalement, et que j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pendant tout ce parcours-là. Mais en même temps, il y a des militants qui font un travail extraordinaire sur la langue créole. Aujourd'hui, on a un vocabulaire, aujourd'hui, on a des dictionnaires.
On est à la recherche du temps perdu en créole.
Exactement. Et puis, on défend maintenant les langues régionales, et je trouve que c'est un combat qu'on a pratiquement gagné, que maintenant, de temps en temps, il faut aussi interpréter en créole.
Alors, j'aimerais qu'on entende justement cette langue à travers Bois Brûlé. C'est une adaptation que vous avez signée, Luc Saint-Éloi, à partir de textes, je ne sais pas, d'un certain Eugène Monnat, qu'on a surnommé, je crois, le Nègre Debout.
Oui, l'homme aux pieds nus. Eugène Monnat, c'est un grand flûtiste, chanteur, compositeur, interprète martiniquais qui a fait vraiment un travail extraordinaire, mais qui a mélangé son chant avec gospel, avec traditionnel, bel air, avec... Et du coup, moi, j'ai rendu hommage à Eugène Monnat en 1996 et j'ai fait sans doute la chose la plus originale de mon parcours de créateur. J'ai fait une dramatique en créole, c'est la seule, où j'ai adapté presque toutes les chansons d'Eugène Monnat en réinventant un contrat. C'est que j'ai traité Monnat comme un dramaturge et j'ai créé une pièce de théâtre que j'ai appelée Bois Brûlé, l'une cellule familiale, l'enfant tambour, la mère tambour, le père tambour, en célébrant les tambours. Et j'ai osé rendre hommage aux hommes tambours à travers cette pièce Bois Brûlé.
Vous nous en offrez un extrait ?
Alors, un court extrait pour montrer la force du texte d'Eugène Monnat, c'est en créole. C'est
c'est Mamaïla paré pour tuer Tamboula. Yo paré pour yo tuer Tamboula. Man ka mandé la vie bat Tamboula. Man ka mandé la vie bat Tamboula. Ces grands hommes-là, dis-moi Tambou, c'est moun. Faudra nous chambéi, faudra nous soigner. Papa, dis-moi, on nous baille la vie. Rasta, dis-moi, on nous baille la vie, on nous baille la vie. Grand homme levé, grand homme palé, moi les savent pour qui nous pas qu'attendre, pour qui nous pas qu'attendre. Moi tambour, moi cisé en l'air, moi senti chalet derrière, chalet des yeux. L'hôtel à soir, c'est l'ensemble pour moi. La potalon qui doit être. Ou quoi chercher à savoir, ça m'a pour maman, pour papa, ou grand-maman, grand-papa, ou toute génération entière à ces nègres. Fosse pour y'a raide sans manger. Fosse pour y'a fouiller à d'un petit emplacement, à d'un petit moment, là y'a autant de voix, moi. Moi, fais y'a communiquer, puis la force d'en haut, énergie, vibration, lumière. Moi, lève un homme qui était jamais des fois, moi, fais l'esprit, river un tranquille. Jouez-moi, louez-moi. Moi, c'est un nègre. Mais nèg qui nèg pour bon.
Le moins levé le matin, moi qui prend bout de côte là, moi qui marre moi pour moi, il fait très moi, il garde son animal moins.
Comment vous vous sentez, vous, quand vous jouez en créole?
C'est pas évident, mais les difficultés sont les mêmes, presque. Un peu plus en créole. Parce qu'en fait, on nous a tellement habitués à penser créole. Et j'ai été biberonné au français, donc...
À penser créole,
À penser français, que la gymnastique n'est pas évidente. Mais moi, j'ai pris un bien fou à créer la dramatique créole de Jeanne Mona. Mais en fait, quand on... Par exemple, là, je viens de dire un texte de Mona, mais je suis complètement porté par ce feu sacré qui est dans le texte-là. C'est un hommage au tambour. Et il dit à quel point le tambour rend vivant celui qui le joue et celui qui le respecte. Et en fait, c'est un hommage au tambour, mais quand on réfléchit bien par rapport à ce qu'on vient de dire sur la traite négrière et l'esclavage, l'héritage commun que nous avons gardé de l'Afrique, c'est le tambour. Et chaque région de la Caraïbe, qu'elle soit française, anglophone ou hispanophone, on a ce son qui nous habite et qui est en nous.
Vous vous sentez fils de l'Afrique, vous, ou pas?
Oui, absolument. Je sens, peut-être pas à 100%, parce qu'on m'a amputé d'une partie de moi-même, mais je fais ce chemin tranquillement. C'est un rapiestage. Moi, j'aime bien l'idée qu'on se rebâtit, on se reconstruit au fil du temps.
Parce qu'il y a quand même encore du grain à moudre hein, entre l'Afrique et les Antilles.
Ah, bien sûr, parce qu'il y a un chemin à... Il faut... En fait, il faut refaire ce chemin inverse, parce que ça nous aide à nous réconcilier avec nous-mêmes. Un noir est fâché avec un noir, tout simplement à cause de cette histoire-là. Avant de pouvoir trouver le chemin de la réconciliation avec l'autre, j'ai intérêt à commencer à m'apprécier. J'ai intérêt à valoriser ce que je suis et tout mon apport qui vient de très très loin. Et ce chemin-là est un chemin de reconstruction pour l'autre et pour soi.
Est-ce que vous vivez, ce sera ma dernière question, comme un afropéen, c'est-à-dire d'ascendance caribéenne mais de culture européenne?
Oh, c'est très complexe tout ça. J'ai tellement peur qu'on nous donne encore un nouvel attribut. Moi, je crois que je suis fils du monde et que je suis peut-être un Afro-Caribéen, mais on peut pas sans doute encore une fois dire que l'Europe est en nous, alors que c'est tellement vaste tout ça. Mais
pensez en français, vous venez de le dire quand même, hein.
Je suis obligé, parce que finalement, de fait, oui, il ne faut pas croire, hein, je ne suis pas indemne, hein, j'ai encore en moi pas mal de séquelles, hein, c'est un travail qui est costaud. J'essaye avec mon travail et ma création d'éclairer, j'essaye d'interroger la mémoire lointaine ou contemporaine, parce que je sais qu'il y a des zones d'ombre terribles, mais il faut aller les rechoquer, les visiter et puis éclairer. Donc finalement, moi je préfère garder ma place en tant que fils du monde et Afro-Caraïbe en disant nous sommes ouverts au monde et nous sommes au monde comme tout le monde.
En sol majeur @rfi.fr.
Au générique de cet en sol majeur consacré à Luc Saint-Éloi, tellement, tellement de choses. L'impossible procès.
L'impossible procès, je reviens sur le cinquantenaire de ce procès qui a eu lieu en 1968. 18 Guadeloupéens sont jugés à Paris pour atteinte à la sûreté de l'État, pour atteinte à l'intégrité du territoire et... En fait, c'est toute l'élite de la Guadeloupe. On a des médecins, des étudiants en médecine, des pharmaciens, des avocats qui sont jugés injustement à Paris, qu'on ramasse brutalement sur leur lieu de travail et qu'on transfère directement en prison de la santé. 18 inculpés défendus par 17 avocats.
Parmi les avocats, on a de grands avocats célèbres, Manville, Camille Darcière, Gros Desormeaux. De nombreux témoins viennent les soutenir à la barre. Parmi ceux-là, j'ai sélectionné 7. Nous avons Jean-Paul Sartre, Aimé Césaire, Paul Vergès, Rosan Girard. Et en fait, l'idée, c'est de rendre hommage à des hommes qui ont pointé du doigt les réalités de notre époque et les inégalités dont on souffrait. En fait, on va leur rendre hommage en revisitant et en rendant hommage aussi aux victimes des émeutes qui ont eu lieu le 26 et 27 mai, qui ont traumatisé la Guadeloupe.
L'impossible procès, c'est votre prochaine création les 12 et 13 juillet au Théâtre Aimé Césaire en Martinique dans le cadre du Festival de Fort-de-France. Et puis, alors là, il y a un sacré post-it à l'horizon avec ce film sur les traces de la mémoire, les coulisses de la marche du 21 juin. C'est projeté pour la première fois en public à l'occasion des 20 ans de cette manifestation. Ce sera au cinéma UGC de Paris dans le 19e à 19h. En sol majeur sera des vôtres. Merci Luc Saint-Éloi.
Avec plaisir.
Lève-moi lever les matins haut. Moi qui prends bout de côte là. Moi qui marre moi pour ma haine fait très moi. Il garde des animaux moins haut. Les 6 heures moins fini. Moi qui prends grand oua. Moi qui lève les moi pour me demander courage. À la divinité, oh. Oui, mais ben moi, manier pour moi, pas ça, senti la misère, moi, oh, oh. La misère, moi. Bon Dieu, fais-moi pour ça, il bat moi en bras brûlé, il bat moi. Et ma bien résistante après les exploitants. Oh, ma pas belle, ni pas belle, compagne-moi. Nous pas faites pour le luxe, pas même pour le calice. Nous n'y doit être admis d'après ça, moi qu'à oh. Et ma katonne, et ça l'histoire qui t'ébat nos vieux frères. Dans les archives, oh, oh, dans les archives. Non, nous sommes pas brûlés, j'ai nous pas différents. Bon Dieu, fais-nous pour ça, il gaba nous.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast avec notre application Pure Radio. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve et on vous espère demain avec le psychiatre franco-togolais Jonathan Aovi. À demain. Tous les cinémas.